Français.
Sauf événement imprévu.
Les rumeurs, les calomnies, les ragots.
Les armes vont parler.
Voilà, retour dans nos studios, donc en la compagnie de nos lutteurs de classe, c'est-à-dire nos syndicalistes. Éric Chavoiroche pour le MEDEF, Éric Bachelard pour la FSU, et les fonctionnaires, et puis Serge Ragazaki pour la CGT. Ah, mais revenons un peu dans le passé, souvenir. Rappelez-vous, c'était il y a un quart de siècle environ. La France existait encore en tant qu'État souverain. Et le pouvoir législatif était au Palais Bourbon et au Sénat sous le contrôle du gouvernement et de l'Élysée. Depuis, l'acte unique est passé par là, ainsi que les traités de Maastricht et de Lisbonne. Depuis, 80% de nos lois ont été retoquées pour satisfaire les hiérarques de Bruxelles. Depuis, et la Commission en a encore attesté ces dernières semaines, un des 27 États de l'Union, donc la France, doit passer sous les fourches caudines européennes. La souveraineté n'est plus nationale, mais européenne. Les nonistes, ce qu'on appelait comme ça en 2005, le braillent depuis déjà au moins 20 ans. Alors là, ça c'est un problème un petit peu local, j'y reviens, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure au niveau de l'Europe. Mais si on revient en France, un des 27 États de l'Union européenne, comment vous, les partenaires sociaux que vous êtes, peuvent encore peser sur le gouvernement des affaires publiques aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez... sans parler du poids que vous pesez ou autre, est-ce que vous pensez que vous pouvez encore peser véritablement sur le gouvernement des affaires publiques, Serge?
Non seulement on peut, mais on doit. Mais
devoir, ok, mais
pouvoir. Par contre, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça fait, si c'est le fait qu'on ait passé 5 années avec Sarkozy. Il semblerait du coup qu'il n'y ait plus qu'un seul pouvoir en France, ce serait le gouvernement, et puis de l'autre, les syndicats, là dans le cadre du débat. Je crois que justement, la donne au sorti de l'élection présidentielle, c'est que d'une part, on n'a plus un président de la République qui endosse l'ensemble du conflit social, puisque finalement, le MEDEF n'avait pas besoin de beaucoup porter ses revendications. Sarkozy... Elle est même parfois plus loin que Laurence Parisot dans ses propos. Aujourd'hui, on revient à un jeu un peu normal. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement d'un côté qui a une part de responsabilité. Une de ses parts de responsabilité, c'est en particulier dans les entreprises qu'il dirige ou qu'il a, où il est actionnaire majoritaire. Et puis ensuite, il y a le vaste champ de l'entreprise avec... parce que les plans sociaux là, qui sont annoncés, on a comptabilisé, hein, ça fait presque 100 000 emplois menacés. Là, c'est pas le gouvernement. Là. Il va falloir qu'il agisse. Mais c'est pas le gouvernement tout seul.
Non, mais qu'est-ce que vous, en tant que syndicat, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement?
Non, mais quand même, ce que je crois, quand même, ce que tu dis là, Yves, c'est peut-être un peu réducteur. C'est quand même la souveraineté d'un pays. Même si moi j'ai voté parfois non, souvent non, à certains traités européens, il n'empêche pas que quand même la souveraineté de la France, elle existe quand même. Dans la mesure où tu peux lever des impôts. Et dans la mesure où, justement, dans le champ social, tu as le droit, quand même, de pondre des lois, à partir de ce moment-là...
Tu ne peux pas prendre n'importe lesquelles.
Attends, tu peux augmenter le SMIC, tu peux décider...
Bruxelles vient de dire que non, justement. Ça coûterait 122 millions d'euros. Ça coûterait une amende de 122 millions d'euros. Bon,
C'est pas vrai. Il n'y a pas d'amende si tu augmentes le SMIC.
C'est Bruxelles qui l'a annoncé. Et pareil au niveau de la réforme des retraites. Donc s'il faisait la réforme des retraites qu'il a prévue...
Tu as le droit de faire ce que tu as mis chez toi.
Non, en l'occurrence, non. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement? Parce que va y avoir, comme tu dis, X dizaines de milliers de licenciements, etc. Qu'est-ce qu'un syndicat, y compris même le MEDEF, qu'est-ce qu'il peut faire contre la fermeture d'une entreprise?
Les Allemands ont augmenté les salaires, ils ont augmenté de 4-5%. Tu peux augmenter même de 4-5%.
Non, ils ont augmenté les primes, c'est pas pareil.
Et ils n'ont pas payé d'impôts, ni d'amende.
Est-ce que le MEDEF peut faire quelque chose aussi contre, par exemple, la fermeture des entreprises?
Est-ce que le syndicat peut intervenir, quel qu'il soit, au niveau d'une fermeture? Ça reste à voir. Parce que seul mettre, entre guillemets, à bord de l'entreprise, ce sont les responsables. Ouais. Donc, est-ce que nous, MEDEF, on peut intervenir sur... C'est vrai que, bon, moi, personnellement, quand des entreprises qui font énormément de bénéfices et qui licencient, c'est quand même pas normal. Bon, maintenant, est-ce qu'un syndicat peut intervenir sur du licenciement? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut être écouté là-haut? Est-ce qu'ils veulent vouloir nous écouter? Quelles que soient, je pense, les forces syndicales qu'on représente, que ce soit CGT, FSU ou d'autres forces syndicales, ou moi-même le MEDEF. Est-ce qu'à ce moment-là, il ne faudrait pas peut-être que dans le gouvernement, il n'y ait pas des vrais représentants de forces syndicales? Voilà. Qu'il puisse donner son point de vue localement.
Et au niveau de la FSU, c'est-à-dire au niveau de la fonction publique, là, la problématique est quand même relativement différente. Il n'est pas question de licenciement, mais il est question de non-remplacement de fonctionnaires ou de choses comme ça. Mais un syndicat de la fonction publique peut-il agir véritablement sur les décisions au niveau de l'État?
Alors il faut quand même savoir que dans la fonction publique d'État, un certain nombre de précaires font aujourd'hui fonction, sont assimilés...
Ça a toujours été pratiquement...
Oui, donc il y a bien des licenciements dans la fonction publique d'État, et ça devient de plus en plus important. Hein. Avec la réforme des politiques publiques, on a beaucoup touché à ce sacro-saint fonctionnariat. Ensuite, bien évidemment, nous avons possibilité d'intervention. Prenons l'exemple de l'éducation nationale. Aujourd'hui, l'éducation nationale n'a plus les moyens de fonctionner. Et ça n'est pas un enjeu qui est un enjeu uniquement de défense des fonctionnaires. C'est toute la population qui est concernée par ce problème. Eh bien,
ça se retrouve dans le pétale aussi.
Notre première fonction, c'est de faire les analyses. Notre deuxième fonction, c'est d'expliquer ce qui se passe et de faire des propositions. Et rien que ça, c'est important. C'est important auprès de la population. Et la population, aujourd'hui, a dire ce qu'elle veut. Un exemple simple. Est-ce qu'il est légitime aujourd'hui que l'État se désengage sur tout le secteur éducatif, sur toute la formation professionnelle, au profit du privé? C'est une bonne question. Et nous avons à faire des propositions. Est-ce qu'il est légitime que ce soit l'État qui prenne en charge, ou est-ce qu'il est légitime que ce soit le parti qui lui est qui prenne en charge ces histoires-là? Au moment où la décentralisation va voir sans doute son troisième acte se mettre en place, c'est des questions qui doivent se poser, et qui doivent se poser au niveau régional, et qui doivent se poser avec tous les acteurs, hein, les acteurs économiques, les acteurs éducatifs, mais c'est la population qui...
Est-ce que ça coûte pas moins cher, si on reprend la formation, est-ce que ça coûte pas moins cher la formation faite par le privé que faite par le public? Autrement dit, est-ce qu'un salarié ne coûte pas moins cher qu'un fonctionnaire?
Oh, je pense qu'on peut. On ne peut pas dire qu'un salarié coûte moins cher qu'un fonctionnaire. Ça dépend des missions qui sont données. Si les missions sont des missions sur tout le territoire, pour tous et à moindre coût, là, mettons en concurrence et vous allez vous rendre compte que le salarié coûte parfois beaucoup plus cher que le fonctionnaire. Aujourd'hui, on fait des délégations de missions de service public aux entreprises privées, mais sans avoir les charges qu'ont les services publics. Alors bien évidemment, le secteur privé s'empare de quoi ? S'empare des secteurs les plus rentables. Mais si on a comme objet de satisfaire la population sur tout le territoire, de manière solidaire, les enjeux sont totalement différents. Il suffit simplement de voir ce qui s'est passé à la Poste. Qu'est-ce qui a été mis au marché privé à la Poste? Ce qui était le plus rentable. Pas le courrier.
Oui, oui. Donc, ça, réponse au niveau de la fonction publique, c'est vrai, depuis la voie de privatisation dans laquelle on est, depuis 86, parce que ça dure depuis 86 le phénomène, ça c'est une chose. Mais au niveau du patronat, le MEDEF, qu'est-ce que vous avez dans vos sacoches revendicatives à présenter justement au gouvernement? Quelles sont vos attentes au niveau du gouvernement? Voilà ce sur quoi il faut absolument travailler, revenir, améliorer. C'est quoi les attentes du MEDEF? Ou d'un patron?
J'irais plutôt attente d'un patron, parce que bon, n'ayant rien préparé, rien vu, j'ai pas vu non plus ce qui nous arrivait du MEDEF, je n'ai pas regardé. Mais en tant que patron, c'est déjà, comme je disais, c'est des aides. Mais des aides de pouvoir reverser l'argent. C'est pas des aides, donner l'argent et puis on sait pas où on va. Donc pour relancer l'emploi...
Et ça serait quoi des aides vues par le...
Baisser les charges. Je pense au niveau de quand on voit comme on est quand même ponctionné, que ça soit sur la sécurité sociale.
Mais si on baisse les charges, bon, quelle qu'elle soit salariale ou patronale, qui va payer cette baisse de charges? Si de 25% pour arrondir, prélevé sur le salarié, si on passait à 20%, mettons, ou à 15%, peu importe.
Mais c'est que les 5%.
Qui va payer la différence?
Après avoir, ça relancerait une économie. Ça relancerait une économie. Si on baisse de 5% les charges à temps, bon, ça fait tant, en fin d'année, on peut reprendre un emploi. Si on reprend un emploi, ça fait quelqu'un qui est en moins au chômage.
Ça a déjà été essayé, ça. Peut-être Serge va pouvoir nous le confirmer. Les baisses des charges salariales, enfin surtout patronales, qui étaient censées relancer l'emploi.
Essayer peut-être, mais après peut-être l'obliger aussi.
N'ont jamais relancé l'emploi véritablement, non?
La difficulté, c'est que quand on parle de cotisation sociale, c'est que finalement, on fait payer à la protection sociale ce fameux débat sur la compétitivité des emplois. Est-ce que c'est à la protection sociale, en clair, à la Sécu, de financer l'emploi?
Non, pas à la Sécu.
Et si on retire des moyens, si on retire, puisque c'est ça la demande...
Si on baisse les charges, oui.
Et si on retire des moyens de financement de la sécurité sociale pour subventionner l'emploi...
Parce qu'on ne peut pas faire économiser des sous à la sécurité sociale aussi. Hein.
Donc,
CEDIC aussi.
Donc d'une part c'est je crois quelque chose qui
et
a été largement...
La sécurité sociale, est-ce que ça doit reposer exclusivement sur le travail?
Et puis ça a été largement mis en œuvre, puisqu'il y a eu quand même toutes les exonérations sur les heures supplémentaires, sur les bas salaires. Plus quelques autres mesures, et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, la difficulté, c'est quoi la difficulté? En particulier sur l'emploi productif. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'investissement. L'investissement, l'argent, au lieu d'être mis à l'investissement, il part en dividende. On a quand même quelques exemples, la semaine dernière, parce que souvent, on entend entreprise du CAC 40. C'est pas ça. Aujourd'hui, l'argent qui est reversé aux actionnaires, y compris pour les entreprises qui ne sont pas du CAC 40, est supérieur à l'argent qui est investi, réinvesti dans l'entreprise. C'est ça aujourd'hui la véritable crise, c'est la financiarisation de l'économie. Avec deux exemples quand même qui viennent nous frapper de plein fouet, France Télécom, qui va verser plus de dividendes que le résultat positif, que le résultat net de fin d'année. Donc ça, il faut quand même qu'on arrive à se l'expliquer, comment une entreprise peut verser plus de dividendes que son résultat positif. Et puis, un exemple qui va arriver, là, hein, sur la place, IBM Montpellier. IBM Montpellier, 80 suppressions de postes à l'horizon. N'empêche qu'on sait que c'est une entreprise qui n'a aucune difficulté financière. Il y a 54 millions d'euros de stock options qui sont provisionnés pour les dirigeants. C'est plus que la masse salariale du site de Montpellier. C'est la ligne de production qui continue, qui a transfert en délocalisation sur Singapour. Où il va y avoir toute la concentration de la production d'IBM, puisqu'ils ont déjà fermé l'entreprise de Dublin et qu'ils ont fermé une partie de l'entreprise qui est aux États-Unis. Alors qu'on nous a expliqué il y a moins d'un an que c'était des zones à risque et que toute la production informatique, tout ce qui relevait de la mémoire vive, du disque dur, le marché avait été en difficulté parce que avec Fukushima et puis les tremblements de terre. Mais aujourd'hui, c'est même logique. Continue. Et la conséquence, c'est quoi? Parce que c'est là, c'est à partir d'exemples concrets aussi qu'il faut regarder les choses. La conséquence, c'est que si on laisse filer ces 80 emplois, c'est la ligne de production qui s'arrête à Montpellier. Si vous arrêtez la ligne de production, ça veut dire que demain, la pérennité du site d'IBM est remise en cause. Est-ce qu'on parle d'IBM? On ne parle pas que d'IBM. On a aujourd'hui incapacité, avec les documents qui sont remis par l'entreprise, à mesurer les impacts produits sur la sous-traitance. C'est pour ça que le syndicat CGT va réattaquer au tribunal, puisqu'on aimerait déjà pouvoir aussi mesurer sur la TPE, la PME, quels vont être les impacts sur l'emploi. Aujourd'hui, IBM, avec les éléments qu'ils fournissent, ils ne permettent pas de donner. Est-ce que tout ça est étranger à l'argent public? Parce qu'on croit que c'est des mondes étanches. C'est faux. IBM vient de percevoir de la région Languedoc-Roussillon 500 000 euros. 500 000 euros pour un projet lié au Grenelle de l'environnement. Donc de l'argent public qui arrivait directement dans l'entreprise d'IBM, qui, je le dis encore, n'a aucune difficulté financière, et y compris va distribuer des dividendes et des stock options, eh ben, c'est cette présentation des choses où les éléments seraient coupés, il y aurait d'un côté la sphère du public, de l'autre la sphère du privé, avec des murs étanches au milieu, elle ne correspond pas du tout à la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en tout cas, nous, on est extrêmement inquiets pour le devenir du département et de la région. Et la question qui est posée d'IBM, puisque bon, si demain on laissait faire ces 80 suppressions de postes, nous on le dit très clairement, c'est à l'horizon de quelques années, la fermeture totale d'IBM, c'est des centaines d'emplois, avec les conséquences dramatiques pour toute la sous-traitance derrière. Et quand on parle de questions de la formation, qu'on aborde ces questions-là, aujourd'hui, il y a des entreprises, il y aurait de l'embauche, vu comment le service de la formation a été cassé, on serait incapable de fournir les personnels formés. Je pense à une autre entreprise de production, la Cameron. Où est-ce qu'on forme des soudeurs aujourd'hui en région en Languedoc-Roussillon ?
Qui est sur Béziers, là.
Sur Béziers. Mmh. Cameron, deuxième entreprise métallurgique. Où est-ce qu'on forme des soudeurs ? On n'en forme plus. Quand la Cameron a besoin de soudeurs, on va les chercher à Toulouse. Paul Boyer, Bédarieux. Contrat avec l'armée. Demain, il faudra embaucher des couturières. Où est-ce qu'on forme des couturières en Languedoc-Roussillon ? Ah, je prends un périmètre un peu large. Hein. Languedoc-Roussillon. On ne forme plus de couturières.
Mais il y a pire que ça sur les soudeurs.
Donc on a, vous voyez, quand on parle de la formation, d'où l'importance que la maîtrise, y compris des orientations sur la formation, elle soit bien dans la sphère publique.
Alors justement, il se dit que l'ex, petit Nicolas, aurait bradé le dialogue social durant le dernier quinquennat et qu'il allait même s'en prendre aux fameux corps intermédiaires dont vous faites tous trois partie. Quel doit être le rôle des syndicats dans une démocratie réelle ? À quoi vous deux, parce que bon, il y a eu ce quinquennat, ok, on l'oublie. Quel doit être le rôle des syndicats, vraiment dans une démocratie ? À quoi devez-vous servir ?
On ne peut pas oublier hein, ce qui s'est fait pendant 5 ans, parce que pendant 5 ans, les choses se sont mises en place. Et ce n'est pas parce que le pouvoir vient de changer de couleur qu'effectivement les gens qui ont été à la maîtrise d'œuvre ont changé eux. Donc je pense, et ça c'est important, c'est que pendant 5 ans, il y a eu un matraquage féroce, notamment concernant la nouvelle gouvernance.
Demain, 5 ans, on pourrait même dire 10 ans. Parce que
10 ans, si vous 2002. Voulez. Mais là, on était dans une période accrue et accélérée. Les gens sont toujours en place. Hein. Donc les problèmes ne changeront pas du jour au lendemain. Et au niveau des mentalités, il va falloir que les choses bougent. Les syndicats, pendant ces 5 dernières années, ont été rendus coupables de tout, écoutés en rien. C'est pas si simple que ça. Donc aujourd'hui, nous avons à retrouver d'abord de la crédibilité, mais de la crédibilité parce qu'on est écouté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, tout à l'heure, on parlait du paritarisme. Dans la réforme de l'État, le paritarisme a disparu. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire État de la situation. On est dans un système où la gouvernance est une gouvernance d'État intégrale. Ça, c'est l'autre problème. Donc, je pense que le paritarisme, les prises de décision qui associent à la fois la population et ses représentants, ses syndicats, entre autres, est quelque chose d'essentiel. Si on veut que la population adhère, il faut donner du pouvoir à ceux qui les représentent. Or, aujourd'hui, c'était tout l'inverse qui nous était proposé. Alors, on attend que demain, on revienne à des choses qui soient un peu plus démocratiques.
Bah, est-ce que ça n'est pas du fait aussi que, quel que soit le syndicat, vous ne représentez plus que la portion congrue de la population, c'est-à-dire rien, ou quasiment
non,
personne.
On ne représente pas rien. Regardez ce qui s'est passé en 2003. On représentait la même chose en 2003 pour les retraites. Et les gens, à la fois, font des votes, hein, de procuration, et disent, voilà, on vote pour vous, et maintenant, travaillez pour nous. Les résultats des élections professionnelles en octobre 2011, dans la fonction publique, ont bien marqué les choses. On n'a pas des votes qui sont des votes à 7%. On a des votes massifs.
Oui, peut-être justement, si on reprend sur la réforme des retraites de 2003, où les gens étaient massivement descendus dans la rue, ça, ok. Bon, pour quel résultat ? Ben, résultat zéro, puisqu'en fait, Sarko a fait passer la réforme telle qu'il voulait la faire passer.
Pas intégralement.
Oh. Non, c'est Hollande qui va la finir.
Mais est-ce que justement le problème justement de la représentativité syndicale ou de la même l'efficacité de l'action syndicale, ça serait pas éventuellement que les syndicats soient plus associés aux décisions au travers de structures régionales ou nationales, peut-être régionales, justement pour effectivement, au travers de, je sais pas, c'est une idée, mais par exemple, il y aurait un Languedoc-Roussillon au travers de la région, avec des élus régionaux, une structure, je sais pas, de développement productif, pour rester dans le truc de Montebourg, dans lequel effectivement les syndicats seraient partie prenante, à la fois pour orienter une formation rationnelle, à la fois pour effectivement aborder des réalités d'entreprise, développer telle ou telle filière, etc. Est-ce que les syndicats sont suffisamment représentés dedans ? Justement, puisqu'ils représentent ceux qui représentent l'emploi, ceux qui représentent l'humain.
Ouais, moi, je crois qu'on peut, on peut revenir à l'analyse institutionnelle, si vous voulez, mais les syndicats ont du poids à partir du moment où ils portent...
On leur donne du pouvoir.
Non, on leur donne du pouvoir, mais ils portent aussi des revendications qui sont les préoccupations des salariés. Si on traite de sujets qui ne sont pas les sujets essentiels, qui aujourd'hui sont les sujets concernant la hauteur des salaires, concernant le chômage, concernant les retraites, concernant l'emploi des jeunes, aujourd'hui, est-ce que pendant toute cette campagne, la campagne présidentielle ou la campagne législative, on a entendu un mot concernant la formation et l'emploi des jeunes ? Rien de rien.
Mais ça, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire est-ce que les syndicats travaillent suffisamment à la possibilité, d'abord.
Quand les politiques ne portent pas les préoccupations de la population, on renvoie la responsabilité sur les syndicats. Mais avant, on a dit que les syndicats ne pesaient rien. Donc, il faut savoir où on est. Si on dit les syndicats ne pèsent rien, alors à ce moment-là, on ne peut pas leur faire porter de responsabilité. Si on dit qu'il faut que les syndicats portent les revendications, alors à ce moment-là, il faut les écouter. Mais en gros, on fait tourner l'histoire en boucle. Ça n'est pas supportable, cette histoire. Nous portons des revendications qui sont des revendications issues de la population. Et je le répète, sont salaire, emploi, retraite et protection sociale. Ce sont ça les revendications importantes. C'est là-dessus que nous voulons travailler, sur protection sociale. Est-ce qu'on a entendu quelque chose pendant les élections ? Rien sur la protection sociale.
Est-ce que le problème central, c'est pas tout simplement le fait que le peuple ne résiste plus ? Le peuple des salariés, le peuple des fonctionnaires, le peuple des patrons, où le patron, il est dans son entreprise, il fait son petit truc, et puis, à la limite, il se mêle pas de syndicalisme ou des choses comme ça. Est-ce que le problème, c'est pas un individualisme chevronné, ou un désintérêt, ou un désabusement, j'en sais rien, désenchantement quand vous, à la CGT, combien de fois, ou à la FSU, vous avez appelé à des grèves, des manifestations, des choses comme ça. Et on voit que quand il y a 300 gus qui manifestent, il se passe rien. Bon. Est-ce que là vous y pouvez rien, c'est pas de votre faute, vous faites tout pour les mobiliser, puis au bout du compte, mais les types ils se mobilisent pas, quoi. Est-ce que le problème il est pas là ? Est-ce que le problème il vient pas tout simplement du peuple ?
Bah moi je pense quand même que, enfin, être du peuple, mais je rejoins tout à fait ce que disait, c'est que déjà il y a un problème de formation. On ne trouve plus de personnel qualifié. C'est vrai qu'on disait, bon, un soudeur, on n'en trouve plus. Moi, dans mon corps de métier, disons, je suis dans l'électromécanique, demain, je vais embaucher un électromécanicien, on n'en trouve plus. Il n'y a pas d'école qui forme des électromécaniciens ou des électriciens tout court. Donc ça quand même, ça pose un
problème. Et ça, c'est de la responsabilité des régions. Depuis la réforme de 2004, la formation professionnelle...
Et de l'État.
Qui a pratiquement tout décentralisé là-dessus.
Oui, au niveau de la formation professionnelle. C'est bien beau de décentraliser, mais il faut quand même assumer. Celui qui assume, c'est quand même en premier l'État qui assume. Hein. C'est facile après de rejeter sur les...
Aujourd'hui, la formation professionnelle, c'est les régions. Oui, ce sont les régions.
Mais on dit, on donne aux régions, vous débrouillez, et après, quand ça ne fonctionne pas, c'est la faute des régions. Non, quand même, ça arrive d'en haut, c'est l'État quand même qui doit assumer ses fonctions, quel que soit le président... qui a à la tête, ou le ministre qui s'occupe de l'emploi. Il faudrait peut-être qu'il descende sur le terrain et de voir un peu comment ça se passe. Voilà. Donc, si on ne revient pas, et ça je partage tout à fait, à de la formation, mais concrète, on ne trouvera plus de personnes. On ne trouvera plus de main-d'œuvre. Voilà. Ou alors, on ira chercher de la main-d'œuvre. C'est malheureusement, mais on va peut-être chercher de la main-d'œuvre étrangère. Hein, faire revenir de la main-d'œuvre étrangère, et ceux qui seront en France n'auront pas de travail. Donc on va créer peut-être de l'emploi, peut-être créer une certaine forme, entre guillemets, de richesse, mais qui va arriver des pays émergents. Et après, qu'est-ce qu'on va faire ? Et ceux qui seront sur place, ils n'auront pas été formés, et ils vont rester au chômage.
Pour terminer, et en prenant une mentalité là, presque anglo-saxonne, pourquoi est-ce que vous voulez pas, vous, pourquoi vous n'avez pas imaginé vous transformer, que ce soit la CGT, la FSU ou même le MEDEF, en lobby européen, avec une plaque à Bruxelles, et avec syndicat des salariés, lobby, syndicat des fonctionnaires, mais au niveau européen, syndicat des patrons, puisque quand même le pouvoir, il est quand même essentiellement là-bas.
Ben, le pouvoir n'est pas là-bas. Et puis d'abord, ce que tu proposes, la place est prise.
Donc, par qui, par qui?
Ben, par d'autres.
Il y a plus de 1250 lobbies différents, ouais, et variés, y compris le lobby des homosexuels, le lobby d'aussi, le lobby de ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un lobby des salariés, un lobby des patrons, un lobby...
Non, mais nous, on n'est pas dans le lobby, on est dans la défense des intérêts. Des salariés.
Donc, c'est ça, un lobby.
Non, non.
C'est de défendre une corporation.
Et ensuite, il y a un deuxième élément. C'est la question, le rôle de l'État et la décentralisation. Parce que ce qu'on proposait tout à l'heure, ça existe. Hein, ça s'appelle le Césaire en région. Il y a tout un tas d'organismes de consultation des organisations syndicales, à tel point qu'on n'arrive même plus à y aller tellement on est invité partout. À part quel est le réel pouvoir de décision des organisations syndicales. Au mieux, on est consulté. Parce que dans le même temps qu'on disait qu'on décentralisait tout, en clair, qu'on donnait à penser que les choses allaient se discuter partout, se débattre partout, au plus près des salariés ou des citoyens, l'État reconcentrait. Un exemple précis. Le rôle du préfet, alors il vient de partir, on ne sait pas qui le remplace, mais en pleine période de crise, que demandaient les organisations syndicales de salariés? On demandait à avoir une réunion régulière en préfecture pour regarder où on en était du point de vue de la crise, quels étaient les effets sur le chômage, et on demandait à ce qu'il y ait tout le monde autour de la table, les organisations syndicales de salariés, les représentants de l'État, les représentants des banques et aussi les organisations patronales. Ça nous a été refusé de façon systématique par le préfet de région. C'est pour dire, quand on demande aux organisations...
Autrement dit par l'État. Parce qu'il,
oui, et quand on demande aux organisations syndicales, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Comment vous bougez dans votre tête? N'empêche qu'à ce moment-là, où on disait, attendez, mettons-nous autour de la table. Peut-être qu'il y a sur un sujet, on va trouver, on va pouvoir amoindrir les... Non, ça nous a été refusé. Je rencontre le MEDEF, l'UPA, la CGPME d'un côté, et puis je rencontre les salariés de l'autre, mais à aucun moment je les mets dans la même pièce. Comment voulez-vous que derrière ça fasse? Ensuite, la décentralisation, ça a amené effectivement tout un tas de choses, mais les organisations syndicales de salariés, en tout cas les organisations syndicales salariées, c'est celles que je connais, elles n'ont pas eu un gramme de pouvoir en plus ou de moyens supplémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est potentiellement invité à tout un tas de réunions à donner notre avis sur tout un tas de sujets, à part qu'on doit le faire avec un droit syndical qui est inexistant, des moyens qui sont totalement inexistants, et en plus on trouve qu'on n'en fait pas assez. Ben nous, on considère que ben, du coup, notre premier rôle, c'est d'aller vers les salariés, de s'expliquer avec eux, plutôt que de participer à des choses où de toute façon... On va pas décider, hein. C'est toute la question de l'ARS. Hein. C'est quand même pas une petite affaire, l'ARS, hein. Le schéma régional de santé.
Parce que quand, sacré chantier, là, par contre. Hein.
Quand oui. On parle de ça, on parle de la première entreprise de la région, le CHU, 11 500 salariés. On peut parler de formation professionnelle. On peut parler justement, le dossier autonomie, puisqu'aujourd'hui, dans le département de l'Hérault, il y a bientôt presque autant de retraités que d'actifs. Donc c'est un ensemble de sujets qui sont... extrêmement important pour les populations, mais aussi pour les salariés, à part que là-dedans, l'organisation syndicale, elle écoute, et au mieux, elle a une voix consultative.
Bon, comme quoi les syndicats ont encore quelque chose à dire.
Comme quoi le pouvoir, il est quand même bien centralisé. À un moment donné, il n'est pas à Bruxelles, il est à Paris.
On touche un chèque, c'est OK.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.